Cher Raphaël, on n'ira pas aux États-Unis et les Américains ne viendront pas à nous avant un petit moment encore.
Ça va être un petit moment. Le petit moment, en fait, il est au moins jusqu'au 21 août. Il n'y a personne qui peut te garantir, Marie-Claude, aujourd'hui, quand est-ce que ça va se terminer.
Il n'y a personne qui va se plaindre de cette fermeture-là.
Ben, certainement pas quand on regarde les sondages d'opinion. Écoute, il y a un sondage Nanos, de la firme Nanos, qui avait particulièrement fait réagir au Canada. C'est parce que ça sondait des Canadiens. Ça avait été publié la semaine dernière et on apprenait que c'était plus de 80% des Canadiens qui souhaitaient que la frontière canado-américaine reste fermée au moins pour les prochaines semaines. Mais tu sais, la question dans tout ça, pour moi, c'est savoir comment on évalue ça. Parce qu'évidemment, il y a une composante politique. Il n'y a pas un élu moindrement rationnel présentement au Canada qui veut être vu comme se fichant de la santé, du bien-être des Canadiens, de la population. Donc, il y a un incitatif politique évident à ne pas rouvrir tout de suite. Mais comment, scientifiquement, est-ce qu'on mesure quand est-ce que ça va être approprié ou non de rouvrir? Est-ce que ça va être avec un certain nombre de cas recensés, un certain nombre de décès? Qu'est-ce qui est trop? Qu'est-ce qui est pas trop? Ça reste pas clair. Et tu sais, comme c'est parti aux États-Unis, on a prolongé encore une fois un mois de plus. Mais comme je te disais il y a une minute, c'est très possible qu'on se reparle, toi et moi, dans un mois et que ça soit encore prolongé d'un autre mois et d'un autre mois et d'un autre mois. Il n'y a pas de fin en vue présentement.
Tout à fait. Ben, avec ce qui se passe aux États-Unis.
C'est ça, exact. Et parlant de ça rapidement, je ne sais pas si tu as vu la caricature que je t'ai envoyée un petit peu plus tôt.
Absolument. Elle dit tout.
Elle dit tout. Quand on dit que le courant passe pas super bien entre le président des États-Unis et le docteur Fauci, qui est censé en fait être, écoute, son scientifique numéro un pour ce qui est de la gestion du coronavirus, c'est remarquable. Tu as le directeur de la campagne de réélection de Donald Trump qui est allé dans les dernières heures diffuser une caricature riant du docteur Fauci. On le surnomme sur la caricature le docteur Fawcett. C'est un jeu de mots parce que Fawcett en anglais, ça veut dire robinet. Et on le dépeint comme étant le type qui ferme justement le robinet pour tout ce qui est liberté, économie, etc. aux États-Unis.
Oui, et qui laisse l'eau couler avec un robinet qui n'en finit plus de couler avec les écoles seront fermées cet automne.
C'est ça.
On se reconfine, pas de football cette saison, etc., etc.
C'est ça. Mais imagine, encore une fois, c'est pas la première fois, toi et moi, qu'on s'en parle, mais cette dynamique-là est tellement surréelle. T'es censé avoir deux personnes qui travaillent intimement ensemble et qui se tirent dessus à boulet rouge. En fait, c'est surtout un côté qui tire sur l'autre, mais c'est remarquable. Puis,
mais lui, il est d'une délicatesse infinie, Fauci, dans le sens qu'il trouve le tour de passer ses messages sans trop embarquer dans la politique. En fait, il fait sa job, mais ça doit pas être facile.
C'est impossible. Il y en a plusieurs qui doivent se demander à ce stade-ci pourquoi est-ce qu'il reste.
Il a 79 ans.
Exactement. T'sais, le type n'a pas besoin de faire ça. Il a surtout pas besoin de recevoir ce genre d'attaque-là non plus. Et de l'autre côté, à ce stade-ci, pourquoi Donald Trump le garde? Pourquoi? Et là, je suis en train de te dire que le Dr Fauci n'a pas de valeur, mais ne serait-ce que d'un point de vue stratégique, Donald Trump est pour entretenir cette espèce de relation malsaine-là qui le fait mal paraître lui-même, pourquoi le garder? Je pose la question.
Ben moi, j'ai ma théorie là-dessus, qui vaut ce qu'elle vaut, c'est qu'il est là depuis tellement d'années. Il a couvert le sida, cet homme-là. Il a couvert tellement de crises sanitaires, crises de santé, que j'ai comme l'impression que si on le mettait dehors, t'as des anciens comme Bush, fils, qui pourraient, enfin d'autres républicains qui pourraient même dire, il y a une limite à ne pas franchir. Mais ça, c'est mon opinion comme ça.
Non, écoute... Je suis d'accord avec toi. C'est sûr que ça créerait plus que de la controverse. Ça créerait carrément un scandale national.
Une sommité. Cet homme-là fait sa job.
Je suis d'accord. Sauf qu'en même temps, le fait de le garder parce que clairement, il n'est pas capable de travailler avec, ce que ça cause, c'est un petit peu l'espèce de supplice de la goutte. C'est-à-dire que certainement à chaque semaine qui passe, on a d'autres histoires de la sorte. Et ne serait-ce que pour le propre bien-être de Donald Trump, c'est pas brillant non plus de continuer de cette façon-là. Fait que je suis pas sûr qu'il y ait une bonne issue présente.
Ouais, t'as raison. Mais t'as vu, hier, il a fini, tu sais, il dit, non, moi, je l'aime beaucoup. I really like him. I like him. He's a good guy. Tu sais, c'est en tout cas.
On voit ça.
Ah, je t'ai dit, les contrastes. On n'a pas fini d'en voir. Bon, retour sur le changement de nom des Redskins de Washington.
Oui, on voulait s'en parler hier. On a manqué un petit peu de temps. Écoute, je veux juste te dire ceci. On se parle d'opinion publique. Ce qui est remarquable avec le changement de nom de l'équipe de football de Washington, c'est que ça fait des années que plusieurs des mêmes voix qui réclamaient ce changement de nom maintenant là, demandaient ce changement de nom. C'est pas récent. Et l'opinion publique, en fait, était très massivement pour le maintien du nom des Redskins jusqu'à tout récemment. Je veux dire, par contre, une chose qui a changé. On dit souvent que l'argent mène le monde. Eh bien, le commanditaire principal des Redskins de Washington, je devrais dire maintenant des ex-Redskins, ça a été annoncé hier formellement qu'ils allaient changer de nom, c'est la compagnie FedEx. Et FedEx, au courant des dernières semaines, tu as peut-être vu ça, avait mis immensément de pression, incluant en public, sur la franchise, sur l'équipe, pour qu'elle change de nom. Et FedEx, c'est pas n'importe quel commanditaire, c'est en fait c'est la compagnie avec laquelle a été baptisé le stade. Ça s'appelle le FedEx Field. C'est en banlieue de Washington, au Maryland.
C'est embêtant s'ils sont plus là, là.
Ça fait un petit peu mal. Et quand tu dis plus là, c'est littéralement ça. FedEx avait dit, écoutez, si vous changez pas de nom, on enlève carrément le logo du stade. Ça, vous ne pourrez plus diffuser le mot FedEx. Fait que, écoute, dans le communiqué de l'équipe, le communiqué officiel hier, je te cite un passage qui pour moi était très révélateur. Je cite, « On veut développer un nouveau nom qui va inspirer nos commanditaires, nos partisans et notre communauté. Le mot commanditaire passe avant tous les autres sans dire. »
Tu ne vois pas que ça va être les FedEx de Washington?
Non.
On verra bien. On verra bien. Dis-moi, il nous reste deux petites minutes pour parler de cette mise à jour sur la candidature présidentielle de Kanye West. J'ai très, très hâte de t'entendre là-dessus parce que ça, pour moi, c'est une autre incongruité américaine.
Je vais finir avec ça, mais si tu me dis qu'il nous reste deux minutes, je vais prendre une petite minute pour te parler d'une autre élection, en fait, qui a lieu ce soir. C'est pas une élection comme les autres, c'est une primaire sénatorial en Alabama. Là, tu vas peut-être me dire, pourquoi est-ce que tu tiens à parler de ça? C'est tellement loin de nos préoccupations. Voici pourquoi. Un des candidats, c'est un certain Jeff Sessions. Tu vas te rappeler de Jeff Sessions?
Oui, et comment?
Ex-sénateur de l'Alabama. Donc, il va aller regagner son ancien siège. Pourquoi est-ce que c'est son ancien siège? Parce qu'il avait quitté ce siège-là pour devenir le premier procureur général de Donald Trump, l'équivalent du ministre de la Justice. Ça s'était fini de façon catastrophique. Donc, veut revenir en politique active. Le petit problème, Trump le déteste, fait tout pour lui barrer le chemin, et là, appuie un autre candidat républicain dans cette primaire-là. Fait que, je te dis, il y a bien du monde à Maison-Blanche qui va suivre les résultats ce soir. Une fois que tout ça s'est dit, Kanye West, je garde la surprise pour la fin. Qu'est-ce que je te disais la semaine dernière, Marie-Claude, quand on se parlait de ça? Je te disais, son premier problème, ça va être de pouvoir même se qualifier pour apparaître sur les bulletins de vote. Et qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui? Il a essayé. Il a engagé du monde pour se qualifier sur les bulletins de vote, notamment en Floride.
Oui.
Ça lui prenait plus de 130 000 signatures en moins d'une semaine. Et qu'est-ce qu'on a appris? Mais c'est un petit peu trop difficile à son goût. Fait que finalement, ça sera peut-être pas pour cette année, on va le dire comme ça.
Il jouait serré un peu quand même.
Ouais, disons que ça aurait été un petit peu surprenant. Écoute, techniquement, c'est pas impossible encore parce que comme je te le disais aussi la semaine dernière, ça opère état par état ces règles-là. Donc écoute, peut-être que dans certains états, il va finir par se qualifier. Mais disons que une Maison-Blanche Kanye West, c'est peut-être pas pour 2021, je vais te le dire comme ça.
On peut effectivement
en venir à cette conclusion. Peut-être
2025, par exemple. Qui sait? Écoute, parle-moi pas là-dessus. Faut aller à la pause. Faut aller aux nouvelles. Jérémy, bon. Jérémy, oui.
Ça fait deux fois, là.
Deux fois cette semaine. OK, ben, on s'arrête de toute façon, Raphaël. Merci beaucoup. À tout de suite.